Bienvenue sur Smart Report, le podcast dédié à la fonction finance et à la consolidation.
Produit par Bismart en partenariat avec Amelkis, ce contenu exclusif décrypte les réglementations et leurs évolutions tout en explorant les dernières innovations.
Smart Report, des regards d'experts et de dirigeants pour éclairer les décideurs financiers.
Bonjour à tous, vous êtes sur Smart Report, organisé par la chaîne de télévision Bismart. Vous êtes aujourd'hui en train d'écouter un podcast fort intéressant, puisque nous parlons de reporting, d'évolution de la fonction finance, de gouvernance de la data financière et d'organisation de ces fonctions, des DAF, de leurs équipes. Comment est-ce qu'ils et elles apportent de la valeur dans leur groupe? Alors, j'ai avec moi ma complice, Laurent Sivon, Head of Growth au sein d'Amelkis, papesse de la transformation de la finance. Tu as connu différents éditeurs, tu as été de différents côtés et tu les vois évoluer, ces DAF, depuis quelques années.
Depuis quelques années, c'est vrai que c'est devenu une passion et une vraie motivation, ces échanges autour de la transformation finance, qui sont par définition des challenges, mais avec des grands bénéfices. Ce sont des belles aventures et je suis ravie de pouvoir y contribuer.
Eh bien, merci pour ta présence. Nous avons un invité aujourd'hui, Eric Basile, donc EVP Finance Tax and Purchasing, au sein évidemment de Segula Technologies. Bonjour Eric.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous?
Très bien.
C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous avoir, alors qu'on vous sait très occupé. Voilà. Il y a quoi, 15 000 collaborateurs au sein du groupe?
Quasiment.
Voilà, présent dans combien de pays?
Une trentaine de pays.
Donc, merci d'être avec nous pour partager un petit peu ce podcast Smart Report avec, peut-être qu'on peut rentrer dans le sujet. On aime bien parler de transfo, de projets complexes. Et je crois que vous avez justement quelques retours à nous donner, puisque un projet complexe, c'est la mise en place parfois d'une nouvelle suite d'outils pour du reporting, de la conso, du fiscal, on en parlait aussi. Donc ça, c'est déjà, c'est un projet à part entière. Il y a le rôle du DAF, le rôle des sponsors, le rôle des champions, le bottom-up, le top-down, la gouvernance d'entreprise qui se trouve modifiée, financière, la data, tout ça. C'est quand même un projet très important et on voulait revenir sur ce projet que vous aviez vous porté de façon peut-être chronologique et rappeler comment vous y êtes pris pour arriver en cette position de succès. D'abord, est-ce que j'ai raté quelque chose sur les grands enjeux liés à un tel projet de transformation?
Non, je ne crois pas. Je pense que quand on aborde un sujet de transformation de la fonction finance, on l'aborde par différents axes. Il y a bien sûr les process, il y a les hommes et les femmes, et puis, il y a les outils. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai été amené à travailler dans mon expérience passée, et on ne va pas tarder à lancer dans mon expérience actuelle, un projet de refonte des outils qui nous servent pour le reporting. Et donc, il y a pas mal de leçons à tirer pour être sûr que ce type de projet arrive à bon port. Et donc, je serais ravi de partager ces enseignements que j'ai tirés de mes projets passés avec vous.
C'était justement un peu la première question. Vous avez changé dans la boîte d'avant, vous allez changer là. Pourquoi est-ce qu'on change pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément concernés par des sujets régulatoires, pourquoi on change de suite d'outils?
Alors, je pense que la fonction finance, comme la plupart des fonctions finance, est confrontée à une question d'efficience. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire toujours plus avec des ressources toujours plus limitées. Et c'est très bien parce que ça force à l'imagination, à la créativité, à la remise en question et à développer des solutions nouvelles. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ce qui peut aussi, ce qui doit, à mon avis, amener à revoir sa manière de fonctionner lorsqu'on pilote une direction financière, c'est le souci permanent de se ménager le plus de temps possible pour rendre service aux opérationnels. Parce que, bien sûr, une direction financière, elle a une fonction d'ordre à jouer, c'est-à-dire qu'elle doit s'assurer que les états financiers sont publiés dans les normes, dans les temps, avec la qualité requise, c'est une évidence. Même chose pour tout un tas de déclarations fiscales, etc. Mais l'essentiel,
la compta four, tout ça.
Voilà, bon, donc ça on connaît bien. Mais l'essentiel, c'est quand même d'épauler les opérationnels, à quelque niveau qu'ils soient, dans l'amélioration de leur performance, donc soit l'amélioration de leur performance PNL quand on parle de profitabilité, soit la performance cash quand on parle de génération de cash flow. Et puis, il y a également à accompagner les opérationnels sur les opérations de M&A, sur les acquisitions, la croissance, le financement de cette croissance. Donc, si on veut pouvoir faire tout cela avec la bande passante nécessaire, avec l'intensité nécessaire et en apportant le maximum de valeur ajoutée, il est évident que sur ces fonctions régaliennes, il faut qu'on soit le plus efficace possible pour y consacrer le moins de temps possible tout en le faisant bien.
Laurent, ce qu'on entend là, c'est ce que tu me parles souvent de support à business partner and beyond. C'est exactement ce dont parle Eric.
Oui, bien sûr. Quand Eric parle d'efficience, je suis à 4000% d'accord. Tu disais pourquoi changer ? Ben parce que le monde, il évolue. Donc déjà, les technologies évoluent. On commence à entendre parler de l'obsolescence d'un certain nombre de solutions historiques. Bon, ça, c'est un axe technologique, mais dans lequel on vit. Et puis, parce que pour être efficient, il faut aussi être simple. Et le diable se cache dans le détail. Le monde évolue en permanence. Les entreprises font des acquisitions. Et le périmètre qu'on avait défini où tout fonctionnait, eh bien, il évolue. On demande de changer. Et finalement, quand on n'arrive plus à piloter avec l'agilité qu'on aimerait avoir, hein, qu'est-ce qui réapparaît ? Notre fameux ami Excel, hein, qui se réinsère dans tous les capillaires et qui vient venir tuer l'efficience et la simplification. Et donc, il faut absolument évoluer, donc se reconfigurer, se repenser. Et c'est absolument pas uniquement une question de technologie, même si je suis là pour vous le dire, mais c'est aussi une question d'organisation, d'humain, de gouvernance, où les reportings augmentent, prolifèrent, souvent en fonction du stress des organisations. J'ai eu un DAF qui me disait, alors moi c'est simple, hein, pour la simplification, on avait plus d'une centaine de reportings. Finalement, je ne savais plus pourquoi on en produisait autant avec les charges de bande passante que ça représente sur les équipes. Alors, j'ai fait simple, j'en ai supprimé la moitié, j'ai regardé qui est-ce qui criait, il n'y a pas eu de protestation, donc j'ai bien fait. Voilà un exemple, tu vois.
Mais je crois que c'est un point clé que tu évoques, Laurence, parce qu'aujourd'hui, on est rapidement noyé dans l'information. La data, on en a par paquet entier. L'important, c'est la donnée pertinente. C'est celle dont on a réellement besoin pour aider les opérationnels à prendre les bonnes décisions. Et c'est là où, effectivement, il faut faire le tri dans le reporting, exactement ce que tu disais il y a un instant. Et puis, il faut essayer de structurer ce reporting autour de quelques principes simples. Moi, il y en a un ou deux que j'aime bien rappeler. D'abord, un reporting, il est nécessairement à 180 ou 360 degrés. Je veux dire, ce n'est pas uniquement un reporting financier. Il y a tout un tas de données extra-financières qui sont...
Par exemple, pardon.
Typiquement, des données sur le pipe commercial, lorsqu'on est dans une activité de service, des données sur l'occupation de nos ressources, etc. Donc ça, c'est des données extra-financières. On pourrait rajouter également des données sur des données CSRD, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel personnellement je crois beaucoup, c'est d'avoir finalement une structure du reporting homogène du bas jusqu'en haut de la pyramide organisationnelle. Je crois beaucoup à l'utilité d'avoir des formats de reporting, des restitutions de la donnée qui soient les mêmes pour les responsables opérationnels au niveau des plus petites unités, comme au niveau du directeur général ou du président exécutif. Un peu le schéma des poupées russes, en fait. Elles ont toutes la même forme, le même dessin, mais évidemment, plus elles s'emboîtent, plus elles couvrent un périmètre large. Ben, c'est exactement l'approche à laquelle je crois beaucoup, parce que ça facilite grandement le dialogue de gestion entre le management local et le top management. Tout le monde utilise les mêmes indicateurs avec les mêmes définitions. Et donc, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a des financial reviews de se comprendre sur des données qui ont toutes la même définition.
Et donc, à la question one for all, one for each, tu réponds avec un aspect one for all où, et c'est une question qu'on évoque souvent avec Laurence, où le compromis d'adaptabilité des on va dire des requirements du haut hein, du siège pardon doivent quand même être bien imprégnés dans le local et dans les différentes...
Je crois qu'il faut, comme en toute chose, être pragmatique et surtout pas dogmatique. C'est-à-dire que s'il y a des besoins locaux, bah, il faut voir comment on peut y répondre tout en évitant la dispersion. Ça, c'est, à mon avis, extrêmement important dans un souci d'efficacité, de maîtrise des coûts, etc. Il n'est pas question que chacun développe dans son coin son propre reporting. En revanche, c'est extrêmement important, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, dans la manière dont on pilote ce type de projet, c'est extrêmement important d'écouter aussi les besoins du local pour éviter que ces projets apparaissent comme des décisions venues d'en haut, plaquer sur les organisations locales sans forcément tenir compte de leurs spécificités. Et dans ce cas-là, pas facile d'emporter l'adhésion. Donc, si on a cette capacité d'écoute et d'intégration des besoins locaux, tout en gardant à l'idée cette idée d'uniformité, d'homogénéité dont je parlais tout à l'heure, en général, on trouve assez vite les compromis nécessaires.
Oui, alors compromis, c'est sûr qu'il y a une gouvernance à mettre en place. On parle souvent de... dans la relation entre le central et le local, de structurer, mais sans contraindre, puisqu'en local, ils vont vouloir de la flexibilité. Alors, c'est plus simple quand les métiers sont homogènes, mais parfois, au travers d'acquisitions, on se retrouve avec des métiers assez disparates, des systèmes d'information qui, eux aussi, se complexifient et sont disparates par nature, notamment des acquisitions. C'est là que, bien sûr, on va prêcher pour une technologie qui permette de travailler à différentes mailles, parce que finalement, c'est les niveaux de détail qui vont être différents, en agrégé, en centrale, mais d'offrir quand même, avec la même hiérarchie, la même poupée russe, j'aime beaucoup l'image, d'avoir la flexibilité locale, de piloter son métier avec ses propres indicateurs qui peuvent être assez différents d'une région à l'autre.
Je me mets à la place de celui qui est en local. Ça existe une seule saisie, différents reporting qui sortent?
Oui, bien sûr, c'est des questions de point de vue aussi. C'est sous quel angle tu vas le regarder, sous quelle maille. Si effectivement la technologie est bien structurée, si le projet a été bien mené, bien conçu en fait, je dirais, tu vas tout à fait avoir ce compromis qui est possible pour peu que, et je suis là pour prêcher la technologie, mais pour peu aussi qu'il y ait une gouvernance, des hommes qui se sont parlé, des métiers qui ont été impliqués au début et qu'on ne trouve pas finalement les KPI métiers en fin de parcours, où là ça risque de poser d'autres questions.
Et alors, on parle de l'humain, là. On a d'abord dit pourquoi il faut y aller. On a ensuite parlé de philosophie. Est-ce qu'il faut s'adapter ou demander à tout le monde de s'adapter un peu à cette question du compromis? Maintenant, on rentre dans l'humain. Comment est-ce qu'on structure l'équipe projet, pour revenir sur ces projets complexes, pour bien favoriser, cristalliser les besoins, bien être sûr qu'on aura de l'engagement, bien être sûr qu'on va être sponsorisé comme il faut et que sur une boîte à 15 000 personnes, on ne soit pas dans un vœu pieux derrière d'usage d'un outil qui aurait pu coûter le PIB d'un petit pays.
Alors, l'expérience que j'ai acquise de mes précédents projets, c'est que, bien sûr, il faut un chef d'orchestre, un ou une responsable projet qui va savoir piloter ce projet comme il se doit, en battant la mesure, en ayant des réunions régulières, en faisant des points très, très réguliers sur l'avancement des différents streams du projet. Donc ça, c'est une évidence. Ce que j'avais expérimenté dans une expérience passée que je compte bien reproduire prochainement, c'est l'idée d'embarquer dans chaque sous-projet des représentants de diverses filiales. Ce que j'avais fait dans ma précédente expérience, c'est qu'on avait mis en place un EPM qui couvrait à la fois des besoins de reporting statutaire, des besoins de reporting de gestion, on couvrait même le reporting ESG et on allait jusqu'à pilier 2, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, pour chacun de ces modules, on va aller solliciter l'intervention de tel ou tel représentant de telle ou telle filiale, plutôt sur la base du volontariat, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc, on s'aperçoit ainsi que finalement, l'ensemble de la communauté qui travaille sur le projet n'a plus l'impression que c'est vraiment un projet qui a été intégralement dessiné au sommet de la hiérarchie, un peu en chambre, sans forcément tenir compte des contraintes du terrain. Et au contraire, progressivement, tout le monde se dit qu'il y a quelque chose à tirer de ce projet, pour autant qu'on s'y implique, qu'on apporte son input et que et qu'on contribue. Alors chacun en fonction de ses goûts. Certains sont venus travailler plutôt sur les liasses de conso, les autres plutôt sur le reporting budgétaire, plutôt sur les rolling forecasts. Enfin, chacun intervient sur ce qui l'intéresse. Et c'est pas mal de faire en sorte que les représentants des filiales ne soient pas tous les mêmes pour les sous-projets, que ça tourne. Comme ça, ça crée une émulation et un sentiment d'appartenance à un projet tout à fait global et qui embarque.
Et qu'est-ce qui fait qu'un il y a des red cards, des alarmes ou des choses très positives qui se passent pendant la conduite d'un projet qui, toi, te mettent la puce à l'oreille? Un truc qui commence à mal se passer, des signaux faibles ou, et au contraire, peut-être des choses qui montrent qu'on va dans la bonne direction. T'as des choses comme ça que tu...
Je pense qu'il faut être très à l'écoute. Quand on est sponsor en tant que DAF d'un groupe, d'un tel projet, il faut bien sûr être présent au comité de pilotage, ça c'est bien. Mais je crois que c'est pas mal d'aller passer du temps lors de visites terrain ou en passant un petit coup de fil à l'occasion d'un one-to-one ou peu importe la manière, d'échanger comme ça un peu à bâton rompu, bien sûr avec les DAF, mais également avec leurs équipes pour voir un peu les échos. On se fait souvent une bonne impression de ce qui se passe en écoutant ainsi les remontées terrain. Et puis ça permet de poser les bonnes questions aux copiles et d'éventuellement identifier les écueils. Donc ça, je pense qu'il faut passer pas mal de temps à l'écoute des équipes qui vont utiliser l'outil ou qui sont en train de faire les tests et qui vont dire voilà, c'est vraiment pas paramétré comme il faut. Donc ça, je pense que ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps.
Et en tout cas, si je peux rajouter sur les critères clés de succès d'un projet, on en voit beaucoup qui démarrent. À notre niveau, on remarque déjà le sponsorship du projet, plutôt au niveau exécutif, avec une vraie volonté, une vraie stratégie dans les attendus de ce projet. Et deuxièmement, d'aller libérer la bande passante requise sur les équipes opérationnelles, qu'on ne va pas venir surcharger en plus de leur quotidien. Ça sont deux critères extrêmement importants. Et l'autre facteur que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'il y a le projet. Il y a jusqu'au go live, on va mener tout ça, mettre tout le monde dans la même respiration. Mais c'est comme un mariage, l'histoire ne se termine pas au contrat, elle commence. Et les projets, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'histoire va commencer parce que le monde va évoluer et que ça doit devoir changer. Et nous, d'un point de vue technologique, on travaille énormément pour rendre les équipes métiers avec un mixte IT et finance extrêmement autonome, y compris dans le paramétrage et dans les évolutions de paramétrage pour qu'ils aient cette agilité. On va parler d'IA, mais c'est notamment un axe pour les libérer de ce phénomène tunnel du projet, parce qu'en fait, c'est une vie qui ne va pas s'arrêter.
Merci à tous les deux pour la première partie d'émission. On a beaucoup parlé donc de ce projet, de la conduite d'un tel projet, de l'équipe aux critères clés de succès. J'avais quand même une question un peu plus personnelle pour vous également, Eric Basile. Au sein de chez Goula, depuis bientôt un an, aux côtés du CEO, du management de la famille, vous avez joué un rôle stratégique dans l'avenir du groupe, du fait de votre poste, et du momentum dans lequel il s'inscrit, puisque vous avez, on va dire, bientôt peut-être accueillir des partenaires financiers de premier ordre, d'envergure des grandes institutions, au capital. Le ciel s'éclaircit enfin pour le groupe, qu'on va voir, on l'espère tous, repartir, mais ça a l'air bien, ça a l'air d'être, les annonces sont de bonnes augures. Quel enseignement personnel vous tirez de ce quotidien à cheval, un peu entre l'urgence du court terme, mais aussi l'intensité liée à un projet de restructuration profond et de l'exceptionnel, quoi?
Alors, il est clair que Ségula, depuis un certain nombre de mois, a traversé quelques difficultés dont la presse s'est fait écho. Et on est un certain nombre à avoir eu à cœur de contribuer à la résolution de ces problèmes et avec l'envie de faire en sorte que cette belle maison, ce fleuron de l'ingénierie française, continue de servir ses grands clients dans l'automobile, dans le rail, dans l'aéro, etc. Donc il y avait une vraie envie à la fois de la part des équipes, des quasiment 15 000 personnes qui composent le groupe dans les différents pays, des clients également qui nous sont restés fidèles pendant cette période un petit peu difficile, et puis de tout un tas de partenaires qui ont eu à cœur de de contribuer à ce qu'on trouve une solution et les décisions qui ont été rendues par le tribunal de Nanterre mi-février garantissent désormais une certaine sécurité juridique, la situation financière est assainie, donc on peut très clairement repartir de l'avant. Et donc ces périodes sont extrêmement intéressantes parce qu'à la fois on traite le passé, on traite le présent et on prépare l'avenir. Alors, ça a l'air un peu bateau dit comme ça, mais traiter le passé, c'est trouver une solution pour des situations d'endettement qui sont parfois complexes. Traiter le présent, c'est garantir la liquidité, faire en sorte que l'activité puisse repartir. Et en même temps, c'est là où il faut être un peu homme orchestre, c'est préparer l'avenir, réorganiser le groupe, avoir éventuellement un business model un peu différent, travailler sur
des scénarios,
de nouveaux scénarios, de nouvelles approches du marché, continuer bien évidemment à servir nos clients de la meilleure manière possible, leur proposer de nouvelles solutions. Donc voilà, donc c'est ça qui est vraiment passionnant dans ces périodes. On est vraiment à la charnière. Avec une ambition qui est grande et puis la volonté de faire en sorte que un bel actif comme Ségula continue de prospérer. Donc c'est vraiment des périodes passionnantes, ça c'est sûr.
Et le sujet cash, ça a été non pas une découverte, parce que vous le connaissiez, mais son importance quand on se rend compte que cash is king, hein, qui est une phrase bien connue du restructuring, c'est tout à fait important.
Oui, tout à fait. Donc c'est évidemment la première chose qu'on cherche à mettre sous contrôle en parallèle du traitement de la dette, avec des outils, là aussi, hein, il faut être très rapidement en capacité de disposer de cash planning, alors pas seulement sur la durée du business plan qu'on présente aux différents partenaires de la restructuration, mais il faut aussi à très court terme savoir dans les 3 mois qui viennent quelle va être la situation de trésorerie des différentes entités du groupe et comment on optimise à la fois la génération et la circulation du cash. Donc, c'est évidemment ce qu'on a cherché à faire avec l'ensemble des équipes de la finance de Ségula depuis mon arrivée en mai dernier. Là encore, avec un objectif, c'est anticiper au mieux, pouvoir prendre les bonnes décisions pour permettre aux opérations de continuer de travailler de la manière la plus efficace possible. Donc oui, le cash est un sujet, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a aussi des solutions qui peuvent être des solutions très simples à mettre en place. Nous, on a trouvé, par l'intermédiaire d'un de nos prestataires, un petit outil très facile à mettre en place, qu'on a mis en place sur quelques semaines au début de l'été 2025, et qui aujourd'hui nous rend d'énormes services pour bien...
Sur la partie cash.
Sur la partie cash uniquement, pour bien gérer. Ça revient un peu au point qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une solution pour tout ou est-ce qu'il faut parfois diversifier les solutions? Évidemment que là encore, il faut être pragmatique. Et puis, quand on a besoin d'aller très très vite, pas chercher à mettre en place un EPM qui ferait tout, mais éventuellement aller sur une solution qui est un peu un shortcut, quoi.
En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment que la technologie vous apporte cette capacité à piloter, parce que là, il va falloir être vraiment en mode flux tendu, aussi bien à piloter que ce soit de la top line ou de l'EBITDA ou le cash, et ça peut changer dans les axes qu'on va surveiller.
C'est sans vouloir te lancer des fleurs, mais c'est pas facile quand t'es sur des gros outils de pouvoir dire, tiens, je change la structure de mon report. Enfin, ou alors c'est moi qui me trompe, mais j'ai l'impression qu'on met au début 2 ans à mettre en place un truc et qu'après on n'a pas trop forcément envie d'y toucher parce que ça fait un peu peur. Alors que là, tu dis que c'est un truc qui est possible de changer la structure de reporting complètement en fonction de l'urgence.
C'est vrai que on a vu beaucoup d'entreprises qui ont mené des gros projets de transformation et une fois qu'ils ont terminé, ils se disent, alors surtout, ça marche, on est go live, on a respecté les délais, les budgets, et on ne touche plus à rien parce qu'on ne veut pas tout casser. En fait, la technologie, elle aussi, elle évolue. On va parler d'intelligence artificielle pour permettre justement d'insuffler une, une autonomie, une flexibilité qui est beaucoup plus grande, par exemple, de détecter dans les données, qui sont par exemple les données historiques, tout ce qui est dans l'entreprise, d'identifier des signaux faibles qui peuvent devenir viraux, sur lesquels vous allez pouvoir réagir, prendre des actions correctives, et puis d'être aussi une IA embarquée, qui va permettre justement de changer ce mode tunnel des projets dont on ne sort pas, parce qu'il va falloir être capable de piloter dans un mode extrêmement tendu, avec une bride courte, je dirais, pour pouvoir réagir et prendre des actions correctives extrêmement rapidement, pouvoir faire des réestimés, faire adapter le plan, etc. C'est toute votre vie qui est passionnante. Hein.
Mais oui, en tout cas, on est là pour ça. Tout à fait. Mais c'est là où, encore une fois, il faut rester sur quelques règles simples. Il faut, un, savoir ce dont on a réellement besoin. Et en fonction de là où on se trouve dans le cycle de vie d'une entreprise, bah, les besoins ne sont pas les mêmes. À l'évidence, quand on traverse une phase un petit peu plus difficile, bah, il faut mettre l'accent sur tous les outils qui permettent d'optimiser le cash. Là encore, c'est un peu du domaine de l'évidence. Après, il faut aussi, ensuite, si on stabilise bien les choses et qu'on part sur des outils type EPM, je pense qu'il faut à la fois penser une structure relativement flexible pour répondre régulièrement aux évolutions de l'organisation. Il faut bien se garder de la tentation qu'on rencontre parfois d'organisations qui changent tout le temps. Je suis convaincu que ça n'a pas d'efficacité.
La stabilité a une valeur.
Bien sûr que la stabilité a une valeur, parce qu'elle permet de se comparer, parce qu'elle permet de mieux comprendre les évolutions d'une année sur l'autre. Donc, il faut trouver le juste équilibre. La stabilité, ce n'est pas non plus le statu quo, ad vitam aeternam, mais c'est l'idée de dire que le changement permanent, ce n'est pas non plus une solution. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on a la chance, effectivement, d'aborder, d'entrer dans cette ère de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'études qui sont faites régulièrement sur le sujet. Moi, je participe à un certain nombre de travaux avec des grands cabinets et puis des associations qui réfléchissent sur tous ces sujets. On voit bien qu'il y a plein de gens qui ont envie d'y aller, mais que tout le monde tâtonne un peu et qu'on se demande par quel...
C'est l'embarqué dont parlait Laurence qui est le plus simple à mettre en œuvre finalement, parce que tu es dans un environnement que tu connais, avec des outils que tu connais, et les développeurs sont pas bêtes, ils essaient de tirer la quintessence d'un outil IA appliqué, plutôt que d'aller dans un développement pur IA et d'essayer ensuite
d'en faire. Je pense qu'il faut vraiment partir des cas d'usage, c'est-à-dire essayer de déterminer quelques cas d'usage. Il ne faut pas avoir des ambitions déraisonnables. Définir quelques cas d'usage sur lesquels on dit bon, bah, on va essayer d'investir pour voir comment on peut répondre à ce besoin au travers des différents outils d'IA qui sont aujourd'hui disponibles. Ça peut être des choses très, très simples. Hein. L'assistance à la production du reporting par les équipes de contrôle de gestion centrale, des choses comme ça. Mais au moins, ça permet de mettre le pied dans ce processus qui va nous occuper encore bien des années, et progressivement d'acquérir de l'expérience, de voir comment on conduit ce type de projet, d'y prendre goût et puis ainsi de progresser.
En tout cas, c'est le métier d'un éditeur comme Amelkis d'embarquer de l'intelligence artificielle pour que notre innovation devienne la vôtre. Et en termes de cas d'usage, ça peut être par exemple de faire évoluer son paramétrage en langage naturel, de lui dire « intègre-moi une nouvelle société » et que
le
paramétrage soit capable d'évoluer. Ça peut être du narratif qui est extrêmement important dans le storytelling et dans ce qui se passe quand je parlais d'identification de signaux faibles ou autres. Et bien sûr, d'aller vers le prédictif. Aujourd'hui, par exemple, on a un cas d'usage dans le domaine de l'ESG où pour atteindre tel objectif dans telle temporalité, il va bâtir tous les dashboardings et tous les milestones qu'il va falloir atteindre indicateur par indicateur. Et il va prévoir la route pour pouvoir atteindre ces objectifs, ce que je trouve absolument génial.
C'est génial. Et je suis complètement à la masse. Dernière question, parce qu'on arrive bien au bout, puisqu'on a dépassé de quelques minutes notre émission, mais la durée de notre émission. Est-ce que c'est Crystal Ball ou est-ce que c'est déjà complètement un usage, de demander à l'IA de regarder sur une boîte de 15 000, 50 000 personnes les 180 entités juridiques et de dire, tiens, en board, on a dit 3% de R&D en moins. Est-ce que tu peux me l'impacter, voir dans quel balancer toutes tes boîtes d'un coup et que l'IA te fasse ton roadmap vers le moins 3% et éventuellement te donne des pistes, des idées, des trucs. C'est boule de cristal ou c'est un truc complètement go live déjà?
Non, non, on est loin d'être go live là-dessus. Il y a encore du travail à faire parce qu'il faut structurer un peu la donnée, faire en sorte que les outils se parlent, que les outils d'IA puissent aller piocher l'information de manière facile. Quand on a beaucoup de RP, bah, c'est forcément plus compliqué que quand les choses sont un peu unifiées.
Parce que là, le cas d'usage, il est assez concret, quoi. Quand on...
Tout à fait. Non, non, mais ça, il n'y a pas de débat. Mais il y a quelques conditions préalables à remplir pour avoir... une information disponible qui soit le plus facilement exploitable par l'IA qu'on viendrait mettre en place. Mais d'où l'utilité de travailler sur les EPN, de travailler sur tout ce qui est data lake, etc. Ce qui permet aussi, après, de plugger une IA qui, là, va aller exploiter toute l'information disponible, répondre aux besoins qu'on va exprimer et puis ainsi nous faciliter le travail.
Merci infiniment, Eric Bazile.
Avec plaisir.
Merci Laurent Civon.
Merci à toi.
Pour ma part, je vous remercie également. Vous pouvez écouter évidemment tous nos podcasts sur bismart.fr, sur vos plateformes de streaming. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci à tous.